VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 10 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'audit international du fichier électoral a commencé.
Le Nigeria renforce le contrôle sur des personnes en provenance de la RDC en raison de l'Ebola.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko parle d'un simulacre de procès inique visant à l'achever.
Au Togo, l'opposition demande des explications au Premier ministre sur l'affaire Bolloré.
Ici à Washington, le président Donald Trump met en garde l'Iran contre des conséquences très graves en cas de reprise de son programme nucléaire.
Israël annonce avoir frappé des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie.
Et libération de détenus américains par la Corée du Nord, le président Donald Trump à l'accueil ce matin à leur arrivée dans la banlieue de Washington.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, début à Kinshasa de l'audit international du fichier électoral avec la composition d'un comité mixte. Cet audit, qui vise à rassurer toutes les parties prenantes à 8 mois des élections, ira, selon le calendrier électoral, jusqu'au 25 mai prochain. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce comité comprend 26 membres, parmi lesquels 5 experts de l'Organisation internationale de la francophonie, 3 délégués de l'opposition, 3 de la majorité présidentielle, 4 des partenaires internationaux, 4 de la société civile et 7 de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes à notre 10, 11 ou 12e expérience en Afrique et nous en sommes fiers. Nous sommes contents parce que nous constatons qu'il y a inclusivité. Les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile sont là. Nous souhaitons qu'il y ait transparence et nous voulons un travail sérieux, a déclaré le général Siaka Sangaré, chef de la délégation de l'OIF, qui a par ailleurs appelé la CENI à leur faciliter la tâche en mettant à la disposition des experts l'ensemble des données pour assurer une meilleure évaluation. De son côté, Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est félicité de l'exécution du calendrier électoral à travers cette expertise, preuve selon lui que la République démocratique du Congo est en bonne voie vers les élections. Signalons que les délégués de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile ont un statut d'observateur, étant donné que le travail technique est confié aux experts de l'OIF. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Concernant toujours la RDC, le gouvernement nigérian s'est dit préoccupé hier par la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la RDC et qui a déjà fait 17...
Général Jean-Marie Michel Mokoko, actuellement jugé dans la capitale pour atteinte à la sûreté de l'État, a prévenu qu'il ne plierait pas Abdourahmane Dia.
Les réquisitions sont attendues demain dans son procès qui a commencé lundi devant la cour criminelle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a choisi de se taire aux audiences. Son avocat dit qu'il a une immunité juridique qui a été rejetée par la Cour suprême. Dans une lettre datée du 8 mai, l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise et ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso accuse la dictature de vouloir l'achever par un simulacre de procès inique. Mardi, la Cour a diffusé une vidéo datant de 2007 qui était censée l'incriminer. Elle a été rendue publique en 2016 quand le général avait lancé sa candidature à la présidentielle. L'officier avait terminé 3e de la course. Après ce vote, il n'avait pas reconnu la victoire du président sortant et avait appelé à la désobéissance civile. À Brazzaville, 2 militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol ont été arrêtés alors qu'ils placardaient des affiches « Libérer les prisonniers politiques ».
Au Togo, l'opposition a demandé hier au Premier ministre Selom Kony Klassou de s'expliquer dans l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré. L'homme d'affaires français a été mis en examen pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Maître Isabelle Manavi Amegonvi, présidente du groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement, a invité le chef du gouvernement à fournir au Parlement la copie des contrats de cession ou de concession conclus par l'État avec certaines entreprises, dont le groupe Bolloré.
Au Ghana, 4 juges accusés d'avoir accepté des pots de vin ont été suspendus. L'annonce a été faite par la présidence qui enquêtait sur un scandale de corruption au sein du système judiciaire. Yacouba Ouédraogo.
Le président Nana Akufo-Addo s'est prononcé après avoir reçu les conclusions d'un comité de discipline qui a engagé des poursuites à l'encontre de 12 juges de la Haute Cour. Eugène Harine, porte-parole de la présidence, a déclaré que cette suspension fait suite à l'établissement d'une preuve irréfutable contre les 4 juges par le comité mis en place pour enquêter sur les présumés actes de corruption. Les 4 juges ont été enregistrés sur le fait en 2015 par un journaliste qui leur proposait des pots de vin pour influencer des affaires en cours. Le journaliste Anas Aremeyai a filmé 100 juges ou fonctionnaires acceptant des pots de vin. Habitué des actions coup de poing, il se déguise pour dénoncer les violations des droits de l'homme ou la corruption. Ces enquêtes ont fait de lui une célébrité au Ghana, bien que personne n'ait jamais vu son visage. 20 magistrats ont déjà été limogés.
En Gambie, la Cour suprême a invalidé hier plusieurs lois limitant la liberté de la presse, jugeant inconstitutionnelles les lourdes peines prévues en cas de diffamation criminelle et de diffusion de fausses publications sur Internet. Le syndicat des journalistes de Gambie avait introduit une plainte à ce sujet en septembre 2015. La plus haute juridiction de la Gambie a également limité la portée de la loi réprimant la sédition 16 mois après le départ à la suite de 22 ans de pouvoir de l'ancien homme fort du pays, Yahya Jammeh.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier que la date et le lieu de son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un seront annoncés dans les 3 prochains jours. Mais, a-t-il précisé, cette rencontre n'aura pas lieu dans la zone démilitarisée à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est lui-même qui avait soulevé une telle possibilité. Monsieur Trump s'adressait aux journalistes mercredi à la Maison-Blanche, peu après la libération de 3 détenus américains par Pyongyang. Ces 3 Coréens américains sont arrivés à la base Andrews en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a eu une rencontre de 90 minutes avec Kim Jong-un, leur seconde en un peu plus d'un mois. Le président Trump était à l'accueil avec le vice-président Mike Pence à la base Andrews dans la banlieue de Washington. Monsieur Trump a remercié Kim Jong-un pour la libération des 3 Américains, ajoutant que Monsieur Pompeo avait eu une bonne rencontre avec le leader nord-coréen.
Le président Trump a menacé hier l'Iran de conséquences très graves si Téhéran décidait de relancer son programme nucléaire. C'est au lendemain de l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le point avec Morgane Guériac.
Je conseille à l'Iran de ne pas relancer son programme nucléaire, a déclaré hier le président Trump, ajoutant que s'ils le font, il y aura des conséquences très graves. Il a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord signé en 2015 et le rétablissement de sanctions contre l'Iran. À l'occasion d'un déplacement en Allemagne, le président français Emmanuel Macron a qualifié d'erreur la décision de son homologue américain. Monsieur Macron et le président iranien Hassan Rouhani ont convenu lors d'un entretien téléphonique de poursuivre leur travail commun en direction de tous les États intéressés en vue de la mise en œuvre continue de l'accord. Le président iranien avait offert aux autres parties, notamment l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie, une fenêtre de négociation pour sauver ce pacte tout en menaçant d'une reprise par l'Iran des activités d'enrichissement d'uranium.
L'armée israélienne a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie, en représailles à des tirs de roquettes attribués à l'Iran sur ses positions dans le Golan, a indiqué un porte-parole. L'opération de la nuit, l'une des plus importantes de l'armée israélienne au cours des dernières années et la plus importante contre des objectifs iraniens, a visé la provenance des tirs de roquettes ainsi que des installations de renseignement, de logistique ou de stockage, a dit à des journalistes le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. Mais nous ne cherchons pas l'escalade militaire, a-t-il ajouté.
Ici à Washington, Gina Haspel, choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA, a promis aux sénateurs américains de ne pas reprendre le programme dit d'interrogatoire poussé contre les terroristes présumés. Mais elle a refusé à plusieurs reprises de condamner comme étant illégal ou immoral de telles pratiques qualifiées de torture par des détracteurs.
Madame Haspel, première femme à diriger l'agence de renseignement américaine en cas de confirmation de sa nomination, dépose exposait hier devant la commission compétente du Sénat. Elle a passé 33 ans au sein de la CIA et une bonne partie de ses audiences publiques a porté sur sa supervision en 2002 en Thaïlande d'une prison secrète de la CIA où des prisonniers ont été assujettis entre autres à des séances de waterboarding ou simulacres de noyade. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Monirakiza.
L'Union européenne va appuyer la Côte d'Ivoire dans son processus de sécurisation foncière. L'objectif est de faciliter la délivrance des titres fonciers qui constituent un problème de fond. La démarche est de délimiter les espaces villageois dans un premier temps et ensuite contribuer à la baisse des coûts pour l'obtention du titre foncier. Le Cap-Vert veut privatiser la Compagnie nationale d'électricité et d'eau Electra d'ici 2020. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Olavo Correia, a également indiqué que le gouvernement a déjà reçu des offres de diverses parties. L'intérêt se porte actuellement sur le choix de la forme de privatisation la plus appropriée. 20% de l'électricité produite sur l'archipel provient de sources renouvelables. Une part qui pourrait être augmentée avec les investissements privés dans le secteur. Ici aux États-Unis, de populations au cœur de l'électorat de Donald Trump se déchirent sur le dossier des biocarburants et en appellent à son arbitrage. Il s'agit des agriculteurs et producteurs d'éthanol du Midwest d'un côté, l'industrie pétrolière et les ouvriers de ces raffineries de l'autre. Un compromis semble s'être esquissé à la suite d'une réunion mardi à la Maison-Blanche avec des représentants des deux camps, le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'Agence de protection de l'environnement. Les agriculteurs s'opposent à toute tentative de réforme.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Défaite de l'Algérie en amical.
Et oui, ce match était une préparation au Mondial 2018 pour l'Arabie Saoudite qui a pris le dessus sur l'Algérie 2-0. Les Faucons Verts ont inscrit un but par mi-temps. D'abord Al-Faraj à la 24e minute, puis en fin de match Al-Sherhi. Les Algériens n'étaient cependant pas au complet comme la plupart des internationaux sont encore avec leur club.
Nouveau trophée pour la Juve.
Et oui, la Juventus s'est adjugée sa 4e Coupe d'Italie consécutive en écrasant hier soir le Milan AC en finale 4-0. C'est la 13e Coupe d'Italie remportée par les Bianconeri dans leur histoire. Pour couronner le tout, les joueurs de Massimiliano Allegri ont l'occasion dès ce week-end d'enlever le Scudetto en Serie A.
En Liga, le Real qui chute.
Oui, dans son stade, le FC Séville ne réussit décidément pas au Real Madrid. Les Madrilènes ont été battus à 5 reprises lors de leurs 6 ultimes déplacements chez les Andalous en championnat. Nouvelle défaite hier soir, 2-3. Au classement, le Real reste à la 3e place, tandis que Séville grimpe au 7e rang, ce qui lui permettrait de rallier la Ligue Europa. Le Barça, de son côté, n'a laissé aucune chance à Villarreal. Victoire 5-1, grâce notamment à un doublé d'Ousmane Dembélé. À noter que la série d'invincibilité continue pour les Blaugrana.
Tour cycliste du Bénin, encore un trio burkinabé pour la seconde étape.
Et effectivement Idrissa, le Burkina Faso s'est illustré dans cette seconde étape longue de 133 km entre Djougou et Parakou. Elle a été remportée par Souleymane Koné. Après son échappée à 60 km de Parakou, Koné a gardé le même rythme, une arrivée en 3h17. Il devance ses compatriotes Abdulaziz Nikema et Safo Bikenga, classé 3e, qui endosse au passage le maillot jaune de leader. Le premier béninois, Bashiki, a terminé à la 6e place de l'étape. La 3e étape, c'est ce jeudi entre Kilibo et Dassazoumbé, d'une distance de 135 km. Allez Idrissa avec vous, quelques résultats de NBA, un seul match au programme dans ces playoffs entre Boston et Philadelphie.
Boston a décroché le dernier billet pour les demi-finales du championnat NBA en battant Philadelphie 114-112. Les Celtics ont remporté leur série du 2e tour, 4-1, et seront opposés en finale de la conférence Est à partir de dimanche aux Cleveland Cavaliers de LeBron James.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Que va-t-il donc se passer après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien pour Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères de Donald Trump? Les États-Unis vont remobiliser dans les mois à venir leurs partenaires pour une renégociation de l'accord. Au micro de Bagassi Koura, Walid Fares.
La position de Trump est de générer, de créer de nouvelles données qui vont obliger les partenaires internationaux à revenir sur la table de négociation, pas aller vers une confrontation, mais de produire un document plus équilibré.
En Europe et aussi en Iran, on s'active à ce que l'accord soit maintenu. Comment vous comptez convaincre les Européens?
L'Iran, bien sûr, le commandement iranien va continuer à vouloir profiter de l'accord parce que c'est surtout à travers ce traité que l'Iran est en train de pouvoir faire rentrer des sommes financières et du cash, comme on dit. Les Européens, eux, savent que les États-Unis s'opposent au traité initial, mais savent aussi que les partenaires arabes des États-Unis aussi sont gênés. Donc les Européens maintenant, ils vont continuer à faire leurs obligations financières en ce qui concerne l'Iran. Probablement au bout de 6 mois, il va y avoir de nouvelles tractations, de nouvelles négociations. Parce que, en fin de compte, ce traité n'était pas à propos de sécurité, mais à propos d'arrangements financiers. La réalité sur le terrain, parce que la question nucléaire elle-même, personne ne s'y oppose. Que l'Iran ne fasse plus de bombes, c'est quelque chose où il y a beaucoup de consensus. Mais maintenant, il faut trouver donc un nouveau équilibre entre ces trois parties, l'Europe, les États-Unis, les pays du Proche-Orient, pour pouvoir revenir sur la table. La Russie, je pense, va rester là où elle était. Donc, faire du business avec l'Iran, il n'y aura pas de problème, y compris la Chine.
Il y a des tensions à plusieurs niveaux avec les partenaires européens. D'abord au niveau de l'OTAN, ensuite au niveau commercial avec les tarifs sur l'acier. Et maintenant, sur l'accord nucléaire, qu'est-ce que vous dites à ceux qui accusent Donald Trump d'avoir saboté les relations transatlantique?
C'est son opposition, ce n'est pas des partis neutres, ils l'ont toujours fait depuis la campagne. Maintenant, bien sûr, l'accord iranien est autre chose, parce qu'il y a des intérêts financiers, les banques européennes, les compagnies européennes ont un intérêt à sauvegarder. Ils leur ont offert une autre voie de pouvoir accommoder, ils le feront. Mais je pense que c'est un peu tôt maintenant. L'Amérique va se réorganiser, surtout au niveau interne avec le Congrès. On a des élections qui viennent dans quelques mois. Et après cela, je pense qu'il va y avoir un sommet euro-américain et arabe pour ramener les choses dans le bon sens au Proche-Orient.
C'était Walid Fares, ancien conseiller aux affaires étrangères de Donald Trump.
Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Un accord arraché en 2015 après 2 années difficiles de négociations et de nombreux rebondissements. Que signifie cette décision majeure prise par le président américain? Cette décision ouvre-t-elle une période d'incertitude dans la région du Proche-Orient? L'Iran va-t-il accélérer son programme nucléaire? Comment réagit la communauté internationale? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Au Cameroun, le gouvernement appelle les populations à dénoncer les actes de corruption et les fonctionnaires fictifs. Elles sont invitées, ces populations, à appeler des numéros verts au ministère des Finances et à la Commission nationale anticorruption. L'opération lancée depuis le début du mois dernier suscite un certain engouement populaire. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Allô, bonjour. L'Invert Konak.
Dans une salle de la Commission nationale anticorruption, le téléphone ne cesse de sonner. C'est ici que sont enregistrés au numéro vert 1517 les appels des Camerounais qui dénoncent les actes de corruption. Sous anonymat, 2 agents de la Commission nationale anticorruption dressent le bilan des 2 premières semaines de mise en service de ce numéro vert.
Nous sommes à en moins 100 appels par jour venant de toutes les parties du territoire national et des appels qui dénoncent des faits de corruption, des infractions assimilées à la corruption.
D'une manière générale, nous recevons des appels de personnes qui dénoncent pour la plupart la corruption dans les services publics ou des officiels corrompus. Au-delà de cette catégorie d'appelants, nous avons des gens qui dénoncent la corruption dans les marchés, des pratiques de corruption instaurées par des responsables de ces marchés.
L'initiative d'un numéro vert à la Commission nationale anticorruption a coincé coïncider avec celle du nouveau ministre des Finances. Ce dernier a invité les citoyens à dénoncer des fonctionnaires fictifs en vue d'assainir le fichier solde de l'État du Cameroun. Cyril Edou-Elor, directeur général du budget au ministère des Finances.
Vous pouvez venir donner l'information que telle personne, je le connais, il n'est pas au poste, mais il perçoit la solde. Ou bien telle personne est décédée, mais ses ayants droit perçoivent frauduleusement sa solde. Ça peut être aussi certains qui camouflent ou bien qui perçoivent les salaires de d'autres personnes.
L'appel à dénonciation des corrompus, corrupteurs et fonctionnaires fictifs au Cameroun est cependant diversement apprécié à Yaoundé.
Il faudrait impérativement dénoncer ce genre d'actes de corruption qui plonge notre pays davantage dans la pauvreté, dans le chômage.
Je suis prêt à le faire n'importe quel moment. Il faut que je dénonce à ceux qui ne travaillent pas.
Moi, je ne suis pas prêt à dénoncer un fonctionnaire fictif. C'est la mascarade du gouvernement. Ce sont eux qui octroient le matricule à ceux-là qui restent au quartier et mangent l'argent de l'État.
Et pour les cas de corruption, vous pouvez appeler quand même au 15-17.
Je ne suis pas d'administration pour appeler.
À la Commission nationale anticorruption, les premières mesures ont d'ores et déjà été prises après dénonciation de quelques cas de corruption, comme l'explique un cadre de la CONAC.
Quand c'est les cas de corruption qui se passent, il y a ces cas d'intervention qui peuvent avoir lieu si c'est dans les environs de Yaoundé. Mais si ça se passe hors de Yaoundé, on est en contact direct avec des inspecteurs régionaux de service. Et puis, il y a d'autres dénonciations qui sont tellement spécifiques qu'on transmet directement à certaines administrations. Pour ce genre de cas, on est en train de les recenser pour transmettre au ministère de la Finance, tu sais qu'il y a un recensement de fonctionnaires en cours.
Après dénonciation, quelques fonctionnaires du ministère des Finances sont depuis quelques jours en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Emmanuel Junta, Yaoundé, VOA Afrique.
Les autorités congolaises et leurs partenaires organisent la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. Eddy Isango a joint le médecin épidémiologiste le docteur José Monzembela, qui est donc de la province de l'Équateur.
Le village Kokoimpenge, à 45 km du bureau central, c'est là que se vit le phénomène de la maladie à virus Ebola. Nous sommes en Bandaka, chef de l'Équateur. Bikoro, c'est l'une des zones centrales de la province. Les gens sont en train de mourir. Donc, on a déployé les équipes samedi passé. Ils sont revenus dans la soirée, la nuit. Donc, le dimanche, on a eu des éléments. Donc, ils ont amené 5 échantillons prélevés. On a trouvé 3 au centre santé de Kokoimpenge dans ce village et 2 malades aussi à l'hôpital général de l'Ouest de Bikoro. Donc, les 5 échantillons de malades trouvés actifs ont été envoyés à l'INRB et parmi lesquels 2 résultats sont revenus positifs. Donc à l'heure actuelle, on est à pied d'œuvre. Il y a une équipe déjà des experts sur terrain. Il y a aussi un appui du niveau central, une délégation arrivée, donc du ministère de la Santé avec le partenaire. On est en train de travailler pour renforcer la lutte contre ces fléaux, donc la maladie à virus Ebola.
Est-ce que la population est informée de ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un présentant des signes de cette maladie?
La sensibilisation doit être continue. Ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle. La première fois, il faut remonter dans l'historique quand la province était encore une depuis longtemps. Alors maintenant là, que ce phénomène est survenu, donc tout est en marche pour la réponse en rapport avec la prise en charge, la communication à la population pour prendre des précautions pour ne pas être atteinte par la maladie. Donc le premier phénomène c'était à Yambuku, donc à plus de 600 km d'ici. Le dernier phénomène c'est à la Tchouapa maintenant comme province à plus de 500 km aussi d'ici. Donc ce que nous vivons maintenant est nouveau dans le contexte de la province de l'Équateur actuelle.
On sait que la population de ces côtés vit entre autres de la chasse et les animaux sont les vecteurs porteurs de ces virus. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le comportement à avoir quand ils vont en chasse par exemple?
Ce qu'il faut savoir que nous sommes dans la forêt équatoriale, il y a le gibier, il y a tout cet écosystème qui est favorable à l'éclosion de cette maladie. Ce que nous devons faire c'est tellement renforcer la communication, la sensibilisation à la population pour prendre des dispositions qui s'imposent. Je pense qu'avec la direction des ministres, qu'il a dit, toutes les dispositions sont prises pour mettre fin à la maladie.
C'était le médecin épidémiologiste de la province de l'Équateur, le docteur José Monzembela.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Ce n'est pas chose facile pour les femmes de se faire un nom sur la scène du hip-hop dans un milieu essentiellement masculin. Pourtant, la chanteuse Fenoz, auteure-compositrice burkinabé, militante anti-MGF, a créé son propre label quand elle a compris les réalités du monde de la musique. Dans cet entretien avec Nathalie Barge, Fenoz décrit les péripéties autour de son troisième album « Baby ».
Cet album a voyagé du Canada, Mali, Bamako, la France, l'Allemagne, passant par des producteurs d'instrumental qui sont au Nigeria, aux États-Unis, Blinkstef au Canada. Et maintenant, pour les concerts, comment ça se passe? Vu que c'est difficile de se déplacer avec toute une band, donc on fait une sorte de casting et on envoie au fait la musique déjà là. Quand on trouve les personnes, et même je dirais en anecdote là, c'est tellement chaud quand j'enregistrais mon album à la dernière minute, il y avait quelques problèmes avec des arrangeurs parce que c'est toujours le monde de la musique. C'était un combat là et ils oublient que ben, moi je suis une femme mais je suis une guerrière quoi. Je me détermine comme étant une ninja. Alors la ninja elle a fait bon d'accord, comme ça. Et ben, à la dernière minute j'ai acheté un ordi avec tout un programme de home studio et j'ai enregistré 3 chansons chez moi et après que j'ai tout envoyé au Canada, à Montréal, à Blinkstef pour qu'ils puissent faire le mixage. Imaginez-vous avec la différence horaire, 6 heures de temps, mais moi j'étais comme une zombie. Dans la journée en Allemagne je travaille, je fais ça et la nuit maintenant j'étais au taquet avec Blinkstef là au Canada et puis pour régler tout le mixage. Mais c'était...
Vous êtes hyper active. Un petit mot sur l'excision.
En fait, l'excision, moi, toute ma vie, tant que je vis, je serai toujours là pour donner mon mot. Parce que en tant déjà que victime de l'excision, et je tiens toujours à le rappeler que ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait ça, mais des personnes de la famille qui ont jugé bon de me faire subir ce sort. Et moi, je suis complètement opposée à toute forme de pratique de l'excision parce que c'est nuire à la vie de la femme. C'est détruire son monde. C'est la faire sombrer vraiment dans une dépression pas possible. Toutes les victimes de l'excision en souffrent. Et beaucoup ne parlent pas parce que il y a cette peur-là, parce qu'on est une fois victime par ce mal, et une deuxième fois victime de la société parce qu'on a peur, en fait, de s'afficher avec cela. Et troisièmement, ben, la société ne nous rend pas ça bien. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Et je voudrais aussi recommander à toutes les victimes de l'excision de prendre aussi cette démarche, quand c'est possible, d'aller faire la reconstruction du clitoris, parce que moi, je l'ai fait. Et franchement, je me suis sentie renaître. C'est vrai que ça ne fait pas oublier ce qu'on a subi parce que c'est inoubliable. Mais au moins, on se sent vraiment renaître. On se sent différente. On se dit, ah, c'est cela qu'on m'en va enlever. C'est vrai que j'arrive pas au même degré que les autres. Mais au moins, je sais ce que c'est maintenant. Et ça fait avancer. Je me sens dévoué, ton amour dans tes bras, tu me l'as avoué. Ton regard me dirige, toi, t'as l'amour dans tes bras, je me vois tous les jours. Mon arrêt, mon âme, mon gué, mon peigne, mon coin. Coup, mon peigne, la bani. Au toit, que cogne, me la bani, un coué, ou quoi, mon cogne. Malgré ma noirceur, je rougis, car mon cœur t'a choisi. Pour la vie, je veux t'aimer à l'infini. De mon cœur près de toi, je n'ai plus peur. Get the girl, I'm Jarabira.
Ah mon bien-aimé, toi le roi de mes pensées. Je viens t'envoyer mon roi, c'est baiser. Mon émoi, mes mini-moi sous le même toit. Mon bibi, mon ami, ma vie avec toi. Mon choix, toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi, mon toi, tout, mon soi.
Fenoz, actuellement en tournée en Amérique, rendez-vous samedi à 19h05, temps universel sur VO Afrique, pour une édition spéciale de notre programme Le Monde Féminin avec la chanteuse burkinabé. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 10 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'audit international du fichier électoral a commencé.
Le Nigeria renforce le contrôle sur des personnes en provenance de...